Bonsoir Pierre, on commence avec Al-Quds, quotidien palestinien publié à Jérusalem-Est, qui titre Politiciens et spécialistes, la loi d'exécution des prisonniers, un crime qui nécessite une intervention arabe internationale. Activer et intensifier la résistance palestinienne, en particulier les opérations martyrs. Renoncer à tous les accords avec l'occupation, notamment les accords de sécurité. Ces appels sont lancés lors d'un symposium de l'Union de la radio et de la télévision islamique, Bureau de la Palestine, en coopération avec la station de radio La Voix des Prisonniers, Prisoner of Voice. Prise de parole de Jamil Alyam, chef du mouvement de la djihad islamique. Jamil Alyam a appelé à payer le prix pour la résistance, activer l'opinion publique internationale, travailler pour forcer l'ennemi à libérer les prisonniers. Il a déclaré, entre guillemets, nous avons en tant qu'Arabes et musulmans des cartes de force, notamment de la diaspora palestinienne qui, d'après lui, serait de 8 millions de personnes. Ismaël Hadouane, le chef du Hamas, a appelé lui à l'escalade des opérations martyrs. Il a mis en garde, je cite, entre guillemets, contre un gouvernement fasciste, raciste, talmudique, on est au stade de l'affrontement inévitable et direct avec tous les piliers de l'ennemi sioniste. Abdelhatti Jouriste a également pris la parole. Les lois sur l'exécution des prisonniers et l'équivalent de crimes d'exécution sur le terrain, et il appelle à une action locale, arabe, internationale. Il appelle également à une réunion urgente de tous les signataires de la Convention de Genève, de la Ligue arabe, du Mouvement international arabe de lutte contre les prisonniers. Renoncer à tous les accords conjoints avec l'occupant. Nous continuons avec L'Orient le Jour, quotidien libanais, qui lui titre Grippe ou AVC, la santé de Nasrallah, le chef du Hezbollah libanais, se détériore depuis ce vendredi. Ramda Slim, chercheuse au Middle East Institute, déclare, il n'est pas mort, mais est dans un état grave. Le porte-parole du Hezbollah, lui, annonce une prise de parole de Nasrallah pour demain mardi et réfute les communiqués médicaux alarmistes dont il accuse la propagande israélienne. Toujours avec L'Orient le Jour, élection présidentielle libanaise, le Hezbollah affirme n'avoir mis son veto sur aucun candidat. Suite à une rencontre ce lundi entre le chef de l'église maronite Béchara Hay et une délégation du Hezbollah, Monseigneur Hay demande une conférence internationale pour sortir Beyrouth de sa crise institutionnelle. Le Hezbollah s'inscrit, lui, dans une logique de confrontation avec Israël et les pays arabes modérés. L'Orient le jour toujours s'interroge, le régime iranien peut-il tomber en 2023? Première condition à cela, les gardiens de la révolution poumon sécuritaire feraient alliance avec les manifestants pour un gouvernement plus militaire, plus nationaliste, à l'exemple des changements tunisiens, égyptiens ou au Soudan. Peu probable, répond le journaliste. Deuxième scénario, une intervention militaire extérieure. Aucun pays ne semble l'envisager sérieusement. Troisième possibilité, guerre civile, ce qui implique pour les manifestants pacifistes être prêts à combattre, avoir les armes et que l'appareil sécuritaire gouvernemental se disloque. On en est loin. Conclusion, l'exemple syrien rassure le gouvernement iranien. Il sait qu'il peut réprimer, tuer, gazer sa propre population sans que le reste du monde ne bouge le petit doigt. Fin de citation. Cet article est de Anthony Samrani, rédacteur en chef de L'Orient le Jour. Le ministre des Transports syrien annonce la remise en service de l'aéroport de Damas depuis 9 heures ce lundi matin, suite à l'attaque nocturne d'Israël. On continue avec Acharq El-Ouazzat, le quotidien saoudien publié à Londres. L'Arabie saoudite se prépare à faciliter le tourisme avec de nouvelles lois. La grève des transports en Tunisie fait la une de ce quotidien. Elle a commencé ce lundi dû au délai de paiement des salaires. Le 25 et 26 janvier, 2 jours de grève toujours en Tunisie sont déjà prévus dans les airs, sur les mers et dans le pays. Plus de 1000 personnes tentent de trouver un transport ce lundi à Tunis. Aujourd'hui, nous ne trouvons plus de lait, plus d'huile, plus de sucre, plus de café, et maintenant nous n'avons plus de bus pour aller travailler. La Tunisie est devenue un endroit insupportable où vivre, déclare une femme en attendant son bus. Ce vendredi, la Banque centrale tunisienne a baissé les taux d'intérêt de 8% à 7,25%. C'est la troisième baisse de l'année pour tenter de réduire l'inflation. Et côté presse tunisienne, que dit-on? Eh bien, l'information, vous allez le voir, est beaucoup plus soft. Des perturbations aujourd'hui, ce n'est que le quatrième titre du quotidien La Presse. Le premier étant « Fête de fin d'année, la joie malgré tout ». Tunisie, pays d'exception. Et à la une de Tunisie News, la Tunisie équipera d'ici 4 ans 65 000 logements en unités photovoltaïques, excusez-moi, et pour la grève, perturbations dans les horaires de bus. On poursuit avec Alaa Labiha. Le nouveau ministre des Affaires étrangères israélien, Eli Cohen, annonce ce lundi un sommet en mars au Maroc avec les pays ayant signé les accords d'Abraham. El-Sisi, le président égyptien, s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou par téléphone. Selon un porte-parole du gouvernement égyptien, El-Sisi a mis en garde Netanyahou pour éviter toute mesure qui pourrait développer tensions et complications sur la scène régionale. On poursuit avec l'hebdomadaire El Aram Hebdo, le patrimoine de la Sainte Famille immortalisé. 1er juin, paraît-il, arrivée de la Sainte Famille à Rafah, frontière est de l'Égypte, puis naissance de Marie, célébrée pendant 2 semaines, selon les lieux égyptiens traversés. Donc c'est en mai, c'est en juin, c'est en août. Toute l'Égypte y passe, les chœurs des églises chantent, battements de tambours, spectacles et chants populaires dans la rue, spectacles de scouts pour célébrer l'arrivée d'une jeune fille à dos d'âne, un bébé en main, un vieil homme appuyé sur un bateau, sur un bâton, excusez-moi, qui tiendrait l'âne et qui serait Saint-Joseph, selon Abdel Al-Jgandi, coordinateur national du circuit de la Sainte Famille au ministère du Tourisme. Oui, vous avez bien entendu, il y a au ministère du Tourisme égyptien un coordinateur du parcours de la Sainte Famille en Égypte et c'est lui qui a présenté le dossier à l'UNESCO, dossier qui a fini par être approuvé fin décembre par 21 pays sur 24, on a voté donc pour l'inscription par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité du parcours de la Sainte Famille en Égypte. Eh bien, je vous souhaite une bonne année civile. Je vous dis shalom, salam, à la semaine prochaine.